grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en public et en direct du Salon du Livre de Paris. Pour paraphraser Kafka, la lecture est une hache qui brise la couche de glace qui recouvre notre mer intérieure. Et pour ce bon vieux Kant, une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Dans ce monde pressé et heurté, qu'elle soit nécessaire ou agréable, la lecture reste plus que jamais une amitié bienfaisante. Et ce matin, la bande de Grand Bien Vous Fasse vous propose une sélection de quelques livres qui enrichissent et éclairent notre vie quotidienne. Au menu, des livres de philosophie, de psychologie, de développement personnel, de cuisine, de voyage, mais aussi quelques curiosités. Et dans le public, vous êtes gracieusement invités à partager les livres qui vous font du bien en ce moment et ceux qui ont changé votre vie. Vous pouvez également partager sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus en public et en direct sur France Inter, en direct du Salon du Livre de Paris. Bonjour à toute la bande.
Bonjour
Ali. Comment ça va avec nous autour de la table? Il y a qui? Ben, il y a Christine Lapellé-Douel, chef de la rubrique Livre à Psychologie Magazine. Christine Ferniaud, bonjour.
Bonjour
de
Ali.
De Télérama, Guy Métodicino de Télérama,
bonjour.
Mais également de France Inter. Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire
Le 1. Bonjour mon cher Ali.
Bonjour Éric Libiot,
bonjour Ali.
L'ours grognon breton, rédacteur en chef culture à l'Express. Anne Cazobon, bonjour.
Bonjour.
Journaliste indépendante et conférencière en développement personnel. Et une pièce rapportée qu'on aime beaucoup dans l'émission, Marianne Chaillant, bonjour.
Bonjour Ali.
Écrivain, professeur de philosophie, vous venez de publier chez Albin Michel Ainsi philosophée Amélie Nothomb. On en dira deux mots tout à l'heure. Alors, Christine Lapellé-Douel, Anne Cazobon, je m'adresse aux deux spécialistes des livres de psychologie et de développement personnel. Comment se porte le secteur de la psycho et du DP, comme on dit dans le milieu?
Dans le milieu.
Est-ce que c'est un marché qui connaît une forte croissance, Anne Cazobon?
Oui, en plein essor. On le voit avec le baromètre Ipsos 2019, hein, qui est paru il y a quelques jours, sur les pratiques et perceptions des Français vis-à-vis du livre. La lecture comme source de plaisir toujours fait un tabac, mais de plus en plus viennent chercher l'épanouissement personnel dans les livres. C'est surtout un public féminin qui est intéressé par le développement personnel. 44% des femmes ont lu un livre de DP, de développement personnel, au cours des 12 derniers mois. Ce sont surtout des quadragénaires et c'est une tendance qui est vraiment en hausse de 12 points a priori par rapport au baromètre 2018.
Vous lisez des livres de développement personnel, Guy Métodicino, vous êtes dans la cible?
Oui, je suis dans la cible. Oh, je suis un petit peu plus jeune que la cible, tu parles. Non, mais en fait, je hochais la tête parce qu'effectivement, développement personnel, ce soit des femmes qui en lisent plus. Enfin, il n'y a quand même pas de mystère. Elles ont besoin de se développer. On veut qu'elles se développent. Développez-vous, bon sang.
Christine Lapellé-Douel, comment vous expliquez ce succès des livres de psychologie et de développement personnel?
Ben, les livres de développement personnel, alors il y a un point intéressant dans cette étude, c'est que ça concerne en effet surtout des femmes et des femmes qui ne font pas partie de ce qu'on appelle les CSP+, c'est-à-dire...
Quel horrible mot.
Ben oui, horrible, et qui d'ailleurs, paraît-il, ne s'emploie plus, mais j'ai oublié l'autre terme. Mais en tout cas, des personnes qui n'ont pas eu la possibilité de faire des études supérieures. Et je crois que c'est une nuance extrêmement importante. Ça veut dire que le DP est le moyen pour beaucoup de personnes d'accéder à peut-être un moyen de se développer de manière peut-être psychologique, spirituelle, etc. Et on en parlera, il y a des nuances, parce que c'est aussi la porte ouverte à un peu le grand n'importe quoi.
Anne Cazobon.
C'est très large aussi, le développement personnel. Ça vient rogner, grignoter les terrains de la psychologie, de la sociologie, de la philosophie. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça que le spectre est immensément large.
Alors, il y a un succès qui ne se dément pas. C'est un livre publié aux États-Unis en 1997, Les quatre accords Toltec, du chaman mexicain Don Miguel Ruiz. Alors, c'est la célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey qui a lancé ce livre, devenu un best-seller mondial. On retrouve dans ce livre 4 règles de vie ou 4 accords Toltec à appliquer avec une promesse de liberté, de bonheur et d'amour. Alors est-ce que c'est de la bouillie avariée pour chat ou est-ce que c'est une méthode simple et efficace pour aller mieux ? Anne Cazobon, dites-nous quand même de quoi il s'agit.
Alors, ça reprend quand même des grands préceptes, c'est du bon sens, hein, beaucoup, le développement personnel, ils n'ont pas inventé la pluie. 4 accords Toltec, ça coûte 7,90€. Je pense que tous les jours, dans un bus, un métro, un tram, je vois quelqu'un qui le lit. C'est 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, 40 langues, traduits en 40 langues, c'est vraiment un succès mondial. En dessous du titre est écrit « La voix de la liberté personnelle ». Dit comme ça, ça peut faire sourire, mais c'est sûr que si on est coincé un peu dans sa prison intérieure, qu'on est d'un cynisme fou, qu'on préfère voir la faute chez l'autre, évidemment, ça va être compliqué de se libérer. Alors le premier accord Toltec, il nous parle de nous aussi, qui avons la chance de parler dans des micros et d'écrire, c'est que votre parole soit impeccable. Et rien que ça, je trouve que...
Ça veut dire quoi ?
De reprendre la responsabilité de ses mots, de ce que l'on dit, de ne pas dire du mal des autres, ni de soi, parce que souvent on va incriminer le patron, la collègue qui a dit du mal de nous, sauf qu'en fait, si on s'écoute toute la journée, on se dit des horreurs à soi-même. Donc voilà, ça parle de bon sens, mais
c'est quoi le deuxième accord ?
Le deuxième accord, c'est n'en faites jamais une affaire personnelle. Alors ça, typiquement, c'est la situation du quotidien avec les collègues, le rendez-vous annulé, elle m'a pas rappelé, voilà, et je le prends personnellement, bien sûr. Hein, il y a qu'à nous que ça arrive, je ne tombe que sur des pervers narcissiques. Le troisième accord, c'est ne faites jamais de suppositions, ça se rejoint un petit peu. La nuance est subtile, mais c'est un magnifique antidote aux ulcères qu'on se fabrique les uns et les autres quotidiennement. Et le dernier, c'est faites toujours de votre mieux. Alors c'est pas faites mieux que les autres, c'est faites mieux que la version de vous d'hier. Donc c'est toujours cette quête vers une meilleure version de soi-même.
Alors Christine Appelé-Douel, vous me semblez assez dubitative hein, sur ces
plus
4 accords Toltec. C'est plutôt de la bouillie pour chat pour vous.
C'est une espèce de digest très marketé qui a fait la fortune de l'auteur et de ses héritiers, c'est-à-dire ses deux fils qui en ont fait une petite affaire qui fonctionne extraordinairement parce qu'il y a eu plus de 4 millions vendus quand même. Hein. Donc moi, si j'avais trouvé ce truc-là, ça aurait été formidable, je ne serais pas
en France. Hein.
Pas en France, dans le monde.
Ah non, mais elle a dit 10 millions.
Moi, j'avais 10 millions.
Ah, 10 millions. Bon, alors, encore mieux, encore mieux. Donc c'est une petite affaire familiale qui fonctionne très bien, qui repose sur... la sagesse ancestrale des Toltecs, ce qui me fait beaucoup rire parce que en menant une petite enquête...
Allez-y, Christine.
En menant une petite enquête, je me suis rendu compte que, en fait, même les archéologues ne sont pas d'accord entre eux sur l'existence réelle des Toltecs et ce serait peut-être même les Aztèques. On ne sait pas trop bien. Donc, le chaman Toltec, voilà, ça fait appel à ça, cette espèce de sagesse qui viendrait comme ça du ciel, ancestral, formidable. Il est chaman, je ne sais pas. Là, on pourrait en discuter. Et il se dit neurochirurgien, j'ai cherché aussi, je n'ai pas trouvé. Donc il y a une espèce de mélange à la fois de scientifique, je suis chirurgien, neurochirurgien, donc la tête, de fausse spiritualité dont on ne sait pas trop d'où elle vient, et puis un produit marketé formidable. Avec quoi ? Avec, Anne vient de le dire, du bon, gros, vieux, bon sens. Ta parole sera impeccable, les grands-mères disaient déjà, tourne ta langue cette fois dans ta bouche. Fais attention, c'était quoi encore l'autre que
n'en faites jamais une affaire personnelle.
N'en faites pas une affaire personnelle, ça c'est le meilleur de tous. N'en faites pas une affaire personnelle, ça veut dire que s'il y a un type qui vient dans la rue vous agresser, vous donner un bon vieux coup de poing, surtout n'en faites pas une affaire personnelle. C'est vrai, le type vous a pas vu en se disant elle a une sale tête, elle s'appelle Marie et je vais lui foutre un coup de poing dans la figure. Mais c'est aussi une histoire, enfin, je pense que c'est assez déresponsabilisant. N'en faites pas une affaire personnelle. C'est le vieux truc américain du nothing personal qui permet de dire des horreurs en disant avec un cancer, mais je t'ai rien dit de personnel. Pourquoi tu le prends mal ?
Non, je crois qu'au contraire, l'idée, c'est de reprendre sa responsabilité, de laisser la responsabilité à l'autre de ce qu'il dit. Ouais. Je pense que plutôt que de trouver et de chercher la réponse à l'extérieur, elle est véritablement à l'intérieur.
Ça va quand même assez loin, parce que on peut dire aussi que c'est une déresponsabilité sociale et politique à partir du moment où on dit il n'y a rien de personnel là-dedans, on se dégage absolument de tout. Et je pense que les gens qui se sont trouvés face à des problèmes graves observent dans les manifestations, par exemple. Rien de personnel, en effet, ça pose un problème.
Tiens, Marianne Chaillant, je m'adresse à la philosophe. Comment expliquez-vous le succès de tous ces ouvrages de développement personnel et singulièrement des 4 accords Toltec ?
Alors, j'avoue que je ne connaissais pas ce livre, mais effectivement, je savais que le développement personnel connaissait ce succès. Ça me semble révéler que nous n'avons toujours pas trouvé la recette définitive moyen d'être heureux. La philosophie propose, elle aussi, une voie d'accès au bonheur plus conceptuelle, plus abstraite,
plus réfléchie,
sans doute. Je me suis un peu du coup intéressée à ça pour préparer l'émission, et je me suis demandé au fond si la littérature, puisque nous sommes là pour fêter le livre, la littérature, la philosophie, l'art en général et toute la culture n'était pas un moyen, et peut-être un meilleur moyen, de se cultiver soi-même, de cultiver son âme, et au fond donc le développement personnel serait une dérivation de ce que la culture en général vise à nous apporter à chacun.
Les 4 accords Toltec, c'est le choix d'Anne Cazobon ce matin. Alors je ne sais pas si on peut considérer le manuel d'Épictète comme un ouvrage de développement personnel, mais vous avez choisi ce livre, Marianne Chaillant, pour nos auditeurs et pour le public du Salon du Livre. Pourquoi avez-vous choisi ce grand ouvrage stoïcien et pourquoi peut-il nous faire du bien par les temps qui courent ?
Alors, quand Épictète a écrit ce texte, il ne l'a pas appelé manuel, il l'a appelé enkeiridion, qui en grec veut dire poignard. Et le but est clair, c'est qu'il est court, ce livre, il est si court qu'on peut le transporter toujours avec soi. Et l'idée, c'est que grâce à lui, on peut se défendre contre ce qui peut nous arriver dans la vie. Grâce au manuel d'Épictète, s'il vous arrive un mauvais événement, la philosophie est là pour vous aider à le surmonter, à le vivre. C'est le but que se proposait effectivement la philosophie à l'époque antique, épicurienne ou stoïcienne, que de nous donner les moyens d'accéder à ce qu'il appelés l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles.
La paix de l'âme.
La paix de l'âme et du corps aussi, de nous aider par exemple à affronter notre angoisse de la mort, à se rendre moins dépendant de nos désirs qui parfois nous aliènent et nous rendent malheureux. Donc je crois que le manuel d'Épictète, c'est un très bon livre pour se défendre contre les maux intérieurs qui peuvent nous ronger, les maux intérieurs et les maux extérieurs aussi qui peuvent nous frapper.
Ça vous a aidé, vous, Marianne Chaillant, ce manuel d'Épictète à un moment de votre vie ?
J'essaye, mais c'est vrai que la philosophie stoïcienne, comme épicurienne, en fait, c'est une discipline de vie, donc on le lit. Et puis ensuite, il faut le méditer, il faut le maturer, il faut l'intérioriser, et j'essaye effectivement de faire ce que Épictète nous demande.
Christine Lapelle-Edouelle.
Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Marianne Chaillant. Les philosophes, en effet, et particulièrement les philosophes latins, nous proposent des petites phrases qui sont très faciles à comprendre, très faciles à lire, mais qui ouvrent des perspectives tellement plus vastes, tellement plus intéressantes que ce qu'on peut lire dans un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre de manuels de développement personnel, que je pense que c'est universel et éternel. Voilà, et qu'on peut se plonger là-dedans. Vraiment, tout le monde peut le faire. Je tiens à dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de philosophie pour pouvoir le lire et pour pouvoir se l'approprier.
Voilà, c'est ça. C'est l'avantage des philosophes de l'Antiquité. En plus, ils sont accessibles.
Ah, oui.
On peut les lire, simplement.
Allez.
Sans être une... je ne sais pas quoi, là. CSP+.
Allez, mettez dans votre poche le manuel d'Épictète, c'est le conseil de Marianne Chaillant. Allez, dites-nous sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse quels sont les ouvrages de psychologie, de philosophie, de développement personnel, les essais, mais aussi les livres pratiques que vous avez envie de partager. Dites-nous également quel est le livre qui a changé votre vie à un moment clé de votre existence. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Nicolas Bove, et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shine this empty night on.
Doors, Light My Fire et Julien Bisson, rédacteur en chef du 1, qui se prend pour Jim Morrison.
Dites-moi, pourquoi brûlez-vous les livres ?
Parce que les livres ne font que du mal.
Grand bien vous fasse.
Vous croyez vraiment ce que vous dites ?
Oh oui, ils troublent l'ordre public, ils empêchent le progrès social.
Sur France Inter.
10h23, grand bien vous fasse en direct et en public du Salon du Livre de Paris. Et ce matin, la bande de deux grand bien vous fasse vous conseille quelques livres qui font du bien et qui éclairent notre vie quotidienne. Alors, Julien Bisson de l'hebdomadaire Le 1, alias Jim Morrison, et Guillemette Audicino de France Inter, vous avez envie de mettre ce matin à l'honneur un livre de la journaliste Annick Cojan, prix Albert Londres. Un livre qui fera du bien à toutes les femmes. Ça s'appelle « Je ne serais pas arrivé là si ». C'est publié chez Grasset. Annick Cojan a rencontré 25 femmes, hein, c'est
27.
Ça
alors,
27.
Il y en avait 27 dans la version grand format chez Grasset. Il y en a 30 désormais dans la version livre de poche qui vient de paraître.
Pourquoi ce choix, Julien Bisson?
Je vous arrête tout de suite. C'est pas un livre qui va faire du bien aux femmes. C'est un livre qui peut faire du bien à tout le monde.
À tout le monde, bien
pas
sûr.
Pas simplement les femmes. C'est un livre donc d'Annick Cojan qui est une de nos plus grandes journalistes, grand reporter au monde, et qui depuis quelques années mène ses grands entretiens dans les pages du quotidien, qui commence toujours par la même phrase, la même formule. Qui est un peu comme cette formule qui ouvre la caverne au trésor, qui dit « Je ne serais pas arrivé là si ». Et elle essaie de traquer, à partir juste de ce début, le moment, l'élément qui va déclencher notre destin, qui va guider nos pas. Ça peut être une rencontre, ça peut être un conseil, ça peut être un précepte, ça peut être un élément de l'enfance. Et elle va raconter à partir de là, dévider la bobine de la vie de ces femmes. Et ces femmes, c'est des femmes incroyables. On a Patti Smith, on a Joan Baez, on a Brigitte Bardot,
on a
Nicole Kidman, Virginie Despentes.
Claudia Cardinal.
Et à chaque fois, on rentre avec cette petite phrase dans l'intimité de ces femmes, dans les expériences qu'elles ont affrontées, expériences heureuses et bien souvent expériences malheureuses, les souffrances, les blessures, les obstacles qu'elles ont dû surmonter. Et à travers tous ces témoignages de femmes, il y a à la fois la singularité de leur parcours propre, mais il y a aussi l'expérience commune de la condition féminine, l'expérience commune d'une certaine génération de femmes aussi, parce que la plupart ont plutôt 60, 70 ans, et nous racontent ce qu'a pu être la condition féminine tout au long des 5 ou 6 décennies passées. C'est un livre absolument formidable.
Guillemette Audicino.
Oui, il faut préciser qu'en fait, elle a fait ce livre avant MeToo, ce qui est fou. On lui a souvent demandé après, presque si elle ne regrettait pas de l'avoir fait avant. Alors non seulement il n'y a rien à regretter vu qu'elle avait senti qu'il fallait faire parler ces femmes-là. Et en fait, elle ne le regrette pas, d'autant plus que c'est là où c'est quand même aussi la souffrance à partager du livre. C'est que la plupart de ces femmes, un des points communs qu'elles ont, c'est... elles ont vécu un abus dans leur vie, elles ont vécu une violence, elles ont été tabassées, elles ont été violées, elles ont été... Même des femmes dont on ne savait pas, qui soudainement, en une phrase, par exemple, Amélie Nothomb qui a toujours parlé de quelque chose qui l'a rongé à l'intérieur, d'une grande comme ça, d'un monstre noir à l'intérieur d'elle... À Annick Cojan, elle dit quel est ce monstre, qu'est-ce qui la ronge depuis si longtemps, etc. Et il y a vraiment une connivence, un sens de la confidence qui s'établit avec Annick Cojan qui est absolument magnifique. Et je suis d'accord avec Julien, il y a aussi une très belle chose qui en ressort, au-delà de la combativité, du fait qu'un élément dramatique peut finalement vous pousser à non seulement à le dépasser, mais à devenir quelqu'un, ou en tout cas à construire quelque chose, il y a aussi une sororité superbe. Toutes témoignent que à un moment ou à un autre, elles se sont confiées à des amis. Il y a eu des copines, des amis, des mères, enfin, qui étaient autour. Et d'ailleurs, c'est très beau parce que Annie Cojon dédie ce livre à sa propre mère. Et il y a quelque chose de « elle non plus, elle ne serait pas là si elle n'avait pas eu cette maman-là ». Donc c'est vraiment un livre magnifique. Et maintenant qu'il est en poche, bah c'est un peu comme les grands Grecs. Hein, là, vous le mettez dans la poche, dans le métro, et ça passe tout seul.
« Je ne serais pas arrivé là si 30 femmes racontent ». C'est signé Annick Cojon et c'est publié au livre de poche. Alors, dans le livre d'Annick Cojon, vous l'avez dit, Guillemette Audicino, on retrouve la romancière belge Amélie Nothomb. Marianne Chaillant, la lecture d'Amélie Nothomb a changé votre vie. Vous publiez chez Albin Michel « Ainsi philosophée Amélie Nothomb », référence évidemment au célèbre « Ainsi parlait Zarathoustra » de Nietzsche. Amélie Nothomb, évidemment, l'auteur d'Hygiène de l'assassin, de Stupeur et tremblement, de La mécanique des tubes. C'est quoi la philosophie d'Amélie Nothomb, Marianne Chaillant?
Je ne sais pas s'il y a une philosophie d'Amélie Nothomb, mais ses livres nous donnent à philosopher, clairement. Et c'est le pari que j'ai fait dans ce livre. Alors, j'ai écrit un livre à la manière d'Amélie Nothomb. C'était un peu risqué, mais je me suis dit pourquoi ne pas mettre en scène Amélie Nothomb et la convoquer dans un tribunal où les grands philosophes viendraient plaider le fait qu'en fait, ce n'est pas un écrivain de littérature, mais un écrivain de philosophie. Et donc, j'ai relu chacun de ses livres, enfin, un philosophe. Je fais relire chacun de ses livres par un philosophe. Et par exemple, du coup, Hegel explique que Stupeur et tremblement est une leçon de philosophie sur autrui. Heidegger vient expliquer que la métaphysique des tubes nous apprend à nous confronter à l'idée de la mort. Et c'est vrai que probablement c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tant d'affinité avec l'œuvre d'Amélie Nothomb, c'est que j'y trouve une substance philosophique précieuse.
Qu'est-ce qu'elle nous dit justement Amélie Nothomb sur la mort, au fond ?
Eh bien, en fait, dans Métaphysique des tubes, on peut déjà remarquer que le titre est très philosophique. Hein. Elle raconte sa naissance, et sa naissance pas sur un plan purement biologique, mais sa naissance comme sujet. Et sa naissance comme sujet, en fait, elle a lieu à partir du moment où elle réalise que nous ne sommes que des tubes nous demeurons jusqu'à la déliquescence de ces fameux tubes, et que plutôt que de regretter cette pensée de la finitude qui vient, cette pensée de la finitude du mourir est une donnée essentielle et constitutive du fait que nous existons. Voilà, il ne faut pas chasser la pensée de la mort, même si elle est douloureuse. Il ne faut pas la mais l'affronter, c'est ce qui nous constitue comme des existants. C'est la leçon d'Heidegger, mais c'est aussi la leçon d'Amélie Nothomb.
Et l'amour dans tout ça, qu'est-ce qu'elle nous dit d'un point de vue philosophique, Amélie Nothomb?
Alors ça, c'est une colle. En tout cas, ce que je pourrais dire, c'est que je ne sais pas ce qu'elle nous dit de l'amour, mais elle suscite notre amour. En tout cas, elle suscite le mien.
Christine Lapelle-Edouelle, vous avez lu ainsi philosophée Amélie Nothomb de Marianne Chaillant.
Lu et chroniqué. J'ai trouvé que c'était un livre vraiment formidable. Alors, je ne suis pas personnellement une fan totale d'Amélie Nothomb, mais le livre de Marianne ouvre plus largement que les textes d'Amélie Nothomb et permet justement d'entrer dans la philosophie et de s'intéresser à la philosophie par le biais d'une auteure à succès. C'est ça qui est formidable. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé
merci
ce livre.
Christine Lapelle-Edouelle, tiens, oui. Amélie Nothomb est apparue à ses débuts hein, comme une romancière excentrique.
Oui,
et dans
toujours.
Votre panier de livres qui font du bien, vous avez choisi Dandy et excentrique de Denis Grosdanovitch. C'est publié chez Grasset. C'est un ouvrage qui s'intéresse au vertige de la singularité et qui pose la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas être dans le moule?
Et voilà. Et c'est un livre, alors je le dis d'emblée, c'est une merveille ce livre. Vraiment. Une merveille par l'écriture et une merveille par la singularité même de l'auteur. Denis Grosdanovitch, il ne s'intéresse pas par hasard aux dandies, aux excentriques. Il en est un lui-même. Il serait probablement étonné de m'entendre dire ça, mais c'est pourtant la réalité. Lui est un ancien champion de tennis qui est devenu philosophant, et écrivain. Et dans ce livre, il se pose la question de savoir pourquoi nous avons besoin, et qui pose la question de savoir si nous avons besoin de personnalités qui sortent complètement du moule. Évidemment, sa réponse est oui, nous en avons un besoin vital pour pouvoir continuer à exister de manière à peu près cohérente, et surtout pour se dire que nous ne sommes pas obligés de fonctionner à l'instar de tout le monde dans une espèce de moule qui nous contraindrait et nous priverait de notre liberté. En fait, les excentriques et les dandies, c'est ça, c'est le signe pour nous tous que la liberté individuelle, la singularité est possible.
Christine Ferniot.
Mais je suis tout à fait d'accord avec Scylla parce que c'est un livre d'une gaieté et d'une écriture. Ouais. C'est un Ludion et c'est intelligent. C'est un auteur merveilleux.
Hein. Ah oui,
merveilleux.
Dandy et excentrique de Denis Grosdanovic. C'est publié chez Grasset. Allez, il est 10h31. Je sais pas vous, mais j'ai une grosse envie de frites. Un peu comme vous.
C'est pour moi.
Un peu comme vous, Guillemette Odissino. On se connaît un peu dans la vie et vous êtes complètement folle de frites. Et vous nous conseillez la lecture d'Aubonne Frites de Paris, d'Anne de la Forest. C'est publié chez Parigramme. Bon.
Bah oui, c'est un petit guide. Ah, vous avez dit des petits guides pratiques.
Oui, qui font du bien.
Oui. Donc, vous savez, il y a des gens qui sont obsédés, ils veulent avoir toutes les adresses de bons clubs sandwich. Il y en a, ils sont obsédés pour. Moi, c'est les frites. Et mais j'imagine que tout le monde a posé un jour cette question, ou alors devrait la poser dans un restaurant. Et les frites, elles sont maison ? Non, mais il y en a ras-le-bol, quoi. Déjà qu'on fait des frites au four surgelées à la maison, quand on va au resto, c'est quand même le minimum syndical d'avoir des frites fraîches. Donc, c'est important d'avoir. Et ce petit guide, il est vraiment. Non seulement il y a des bonnes adresses, c'est écrit avec gourmandise. Il y a des endroits dans lesquels, franchement, j'aurais jamais foutu les pieds si ce guide ne me disait pas « si, si, tu peux y aller sans risque ». Il y a même une adresse aussi où on peut manger de la bonne poutine, parce que
sinon,
il y a des frites en dessous. Non, ça dépend. Normalement, c'est une horreur, mais de temps en temps, exceptionnellement. C'est une spécialité québécoise, où il y a de la frite molle en dessous et du gros fromage fondu au-dessus.
Alors, c'est un sandwich aux frites.
Ça n'a pas l'air excitant, mais de temps en temps, il y a des bonnes poutines. Et là, par exemple, dans ce guide-là, il y a une adresse où on peut manger une bonne poutine. Mais les vrais guides, comme ça, avec des niches, mais des niches essentielles, comme la frite, moi, je trouve ça important.
Éric Libio,
c'est vrai, la raison.
Grand spécialiste grand fan de la pomme de terre devant l'éternel.
C'est vrai, alors il faut une double friture, mais c'est vrai que la poutine, c'est le genre de plat où vous le regardez, vous prenez 15 kilos, et ça, vous êtes habitué. Je note quand même votre science de l'enchaînement, Ali, parce que tout à l'heure, Priscilla parlait de sortir du moule, et juste après, vous parlez des frites. Moi, je trouve ça absolument magnifique.
Rappelez
même,
le titre.
C'est un mec de radio.
Guillemette Odissino, ça s'appelle Aux bonnes frites.
Aux bonnes frites.
De Paris, Dame de la Forest, et c'est publié chez Parigramme. Alors, Christine Ferniaud, un livre ogresque, je ne sais pas si ça se dit ogresque, qui donne envie de bouffer la vie. C'est un sacré gueuleton de l'américain Jim Harrison. C'est publié chez Flammarion. Jim Harrison, le célèbre auteur de Dalva ou d'Un bonjour pour mourir, Jim Harrison qui est décédé en 2016. Je cite, juste avant de vous donner la parole, Christine Ferniaud, je cite Jim Harrison. Si l'on devait m'apprendre que j'allais bientôt passer l'arme à gauche, j'ai souvent pensé que je rejoindrais Lyon pour y manger comme quatre devant un bon mois, après quoi on pourrait me jeter d'une civière dans le Rhône bien-aimé. Et j'ai commencé à le lire, et c'est une merveille, Christine Ferniaud, ce sacré gueuleton de Jim Harrison.
Mais qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ce que vous venez de dire ? C'est vrai que... Mais l'idée formidable, c'est d'avoir demandé à Jim Harrison, écrivain merveilleux, de faire des chroniques gastronomiques, parce que lui, il était fait pour ça, c'est un outre-mangeur, donc il écrit merveilleusement bien, mais c'est quand même un garçon qui va, par exemple, raconter qu'il fait un repas de 37 plats, il va marcher un petit peu, et puis il dit... Oh, ça a l'air sympa ce petit resto là. J'ai un petit creux. Et c'est ça, c'est sans arrêt. Quand par exemple, quand
il avait surtout des pleins, pas tellement de creux.
Oui, plutôt des pleins. Mais c'est ça qui est bien. C'est on lit ça sans grossir et on est enchanté. Par exemple, il nous explique que ce qu'il aime manger, c'est du riz de veau, mais avec 1 demi-litre de crème et puis 4-5 truffes. Et c'est sans cesse sa vision de la cuisine souvent française et puis de l'alcool. Il boit énormément, il boit très très bien, il choisit les vins parfaits. On a envie de rouler sous la table avec lui. Ce livre est une merveille d'écriture, de gourmandise, de bonheur. Enfin, tout est là. Tout est là. Ça s'appelle « Manger, boire et vivre ».
Un sacré gueuleton de Jim Harrison et c'est publié chez Flammarion et on vous le recommande autour de la table. Éric Libio, est-ce que vous sauriez situer sur une carte l'Arizona, cher à Jim Harrison ?
Bah oui, c'est au sud de l'Australie en fait, c'est en pleine mer australe.
Parce que vous avez choisi un ouvrage qui m'a l'air assez formidable, ça s'appelle Carte, explorer le monde.
Voilà.
C'est chez Erol et alors c'est écrit par Ai Weiwei, Mohamed Al-Idrissi et Jacopo de enfin, Barbarie.
Oui, non, c'est-à-dire c'est un, ce qu'on appelle un beau livre d'ailleurs. C'est, ouais. c'est voilà, un livre un peu lourd. Moi, ce que j'aime.
C'est un ouvrage qui réunit 300 cartes.
Hein. Voilà, 300 cartes. Parce que tout à l'heure, on parlait de développement personnel. Comme disait Marianne tout à l'heure, j'ai toujours l'impression que le livre lui-même aide au développement personnel, pas forcément lit de développement personnel. Et ce livre-là, qui est une succession de cartes, alors évidemment des cartes du ciel, des cartes de la terre, la carte du Tour de France, la carte même de Jon Snow de Game of Thrones, c'est une porte vers l'imaginaire. On dit toujours que le monde peut être mis en équation, en fait le monde peut être mis en carte. Et c'est un ravissement, c'est un voyage absolument magnifique, à la fois dans le monde réel, puisqu'il y a effectivement la carte de l'Arizona, vous la trouvez, et puis dans un monde qu'on s'invente soi-même à chaque fois qu'on rentre et qu'on regarde. Moi, les cartes, ça me fait rêver à chaque fois.
Oui, quoi. Je sais, vous êtes un fan des cartes Michelin.
Je suis un grand fan des cartes Michelin, des cartes routières, parce que c'est on se plonge dedans et on se met à voyager. Et ce livre, c'est ce qu'on appelle un beau livre, mais un très, très beau livre. Ça fonctionne par double page, avec chaque page, c'est une carte avec un petit texte dessous. Et c'est, on le feuillette, etc. Et c'est un...
Et on rêve. Voilà. Et on rêve. Ça s'appelle Carte, explorer le monde. C'est publié chez Héroleur. On reçoit beaucoup de messages Facebook. Marie qui nous dit ma dernière lecture, c'est La vieille qui conduisait des motos de Anne-France d'Hauteville. Un petit livre qui vous donne la pêche pour longtemps. Je suis malade fibromyalgique et j'ai commencé à piloter une 125 cm3 à 58 ans. J'en ai 61 aujourd'hui et cette lecture m'a fait un bien fou. Marianne nous dit c'est Le Lambeau de Philippe Lançon. C'est le livre qui me fait du bien en ce moment. J'ai dévoré ce livre magnifiquement écrit. Il devrait être recommandé aux étudiants. Il faut le lire, bien plus enrichissant que moult ouvrages de développement personnel. Et pour Justine, c'est Le sel de la vie de l'anthropologue Françoise Héritier, paru chez Odile Jacob, à travers une énumération de petits moments agréables qu'elle a vécu et dans lesquels le lecteur se retrouve. Elle décrit avec simplicité la joie de vivre. Guillemette Odissino.
Bah, je suis d'accord.
Christina Pellegouelle.
Très très beau livre. Très beau choix.
Allez, dites-nous sur la page Facebook de Romain Bouffasse quels sont les ouvrages qui vous font du bien en ce moment et le livre qui a changé votre vie à un moment clé de votre existence. Et tout c'est de magnifique. Suite, on écoute Angèle.
N'existe pas sans son contraire qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. On joue. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire. Il faudrait tout oublier. On joue. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais tu le serais. Les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. C'est simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Un jour.
le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être
heureux. Si ça me fait juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Angèle et Roméo Elvis, interprétés tout oublié, vous me disiez, Rantaine, là, Guimet Odissino.
C'est une chanson qui se moque quand même légèrement du développement personnel.
C'est vrai, un petit peu.
Hein, si tu veux être heureux, t'as qu'à demander, tu le seras. Ah, si c'était si simple.
Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres. Hein?
Grand bien vous fasse.
J'ai acheté les mêmes boîtes de Poulina, il n'a même pas lu.
T'as même pas lu ce que t'as acheté ton père?
Non, c'est pas au programme à l'école.
C'est pas au programme à l'école.
Ça non plus, c'est pas au programme, dis donc!
Sur France Inter.
10h42, grand bien vous fasse en direct et en public du Salon du Livre de Paris. Et la bande de Grand Bien vous fasse qui vous conseille ce matin quelques livres qui font du bien et qui éclairent notre vie quotidienne. Anne Cazobon, un livre bien utile si vous venez au Salon du Livre. Ça s'appelle Remède littéraire, se soigner par les livres d'Ella Bertou et Suzanne Elderkin. Et c'est disponible au livre de poche.
Oui, une espèce de manuel médical, une sorte de vidal de la littérature qui nous rappelle que la bibliothérapie, hein, c'est ce qu'on fait ici, qu'on se soigne par les livres, peut en effet s'illustrer auprès de livres de développement personnel, de philosophie, mais surtout de livres de littérature, de se passer ces romans sur le corps comme des onguents, comme des baumes balsaciens. Alors à chaque chagrin d'amour ou situation du quotidien, sa diète de Proust, son cataplasme de Pérec, si vous êtes victime d'adultère, A comme adultère, vous pouvez aller vous replonger dans Madame Bovary ou Anna Karénine par exemple. En cas de manque de confiance en vous, vous pouvez vous tourner vers Mauvaise fille de Justine Lévy. On vous dresse aussi la liste des meilleurs romans pour arrêter de fumer, les 10 meilleurs romans en cas de rupture où on retrouve Bec Bédé et son amour qui dure que 3 ans, ou Le Je m'en vais de Jean Esnoz, pour se remettre de la maladie la plus répandue dans le monde qui est la gueule de bois. On peut se tourner vers Philippe Jaénada et La femme et l'ours. Enfin, il y a les livres aussi à lire à 40 ans. Moi, j'ai 40 ans dans quelques semaines, je me suis plongée. Donc, on me propose de lire L'éloge des femmes mûres. Je ne sais pas comment je dois le prendre, surtout que cette liste.
Prenez-le bien.
Cette liste est juste à côté des livres à lire à l'âge de 80 ans.
Ouais, c'est l'âge d'Éric Livio de l'Express.
Et
dans quelques jours.
Très mûr, il y a aussi.
Christine Appelé-Douel, je rappelle que vous êtes un peu une spécialiste de bibliothérapie. Vous avez publié ces livres qui nous font du bien.
Ouais.
Sur les remèdes littéraires, là, vous le conseillez?
Oui, il est très très bien. Il a été adapté parce qu'évidemment, les deux auteurs sont anglaises et elles travaillent avec notre philosophe anglais préféré, Alain de Botton, dans la fameuse School of Life. Et c'est là qu'elles ont ouvert leur consultation de bibliothérapie. Et puis à partir de là, elles ont commencé à écrire le livre. Et oui, ce livre est très très bien. Il a été adapté. Julien vient de me souffler le nom de l'adaptateur, qui est
Alexandre Fillon.
Voilà, Fillon, qui travaillait au magazine Lire. Et voilà, donc il a adapté pour les lecteurs français en proposant en effet un certain nombre de titres. Allez, et c'est très bien ce bouquin, c'est amusant.
Baladez-vous au Salon du Livre avec les remèdes littéraires, se soigner par les livres d'Ella Bertou et Suzanne Elderkin, et c'est disponible au livre de poche. Tiens, dans le public, Sophie. Bonjour Sophie,
bonjour.
Bienvenue dans Dormez-vous face.
Bonjour, je rejoins les deux dernières interventions. Je voulais évoquer une personne que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'a prescrit des livres sur ordonnance, c'est Régine de Tambelle, oui, qui a écrit un ouvrage à ce propos, et je pense aussi à Marc-Alain Wachnin qui nous inspire beaucoup là-dedans. Et l'idée qu'un livre sur ordonnance, ça a bien plus d'effet qu'un livre qu'on va acheter tout seul, parce qu'il est ciblé, parce que derrière il y a une parole confiante qui vous guide. Et elle m'a prescrit notamment, pour ceux qui sont boulimiques de livres et qui ont un tas, qui n'ont pas encore lu à lire et qui continuent d'en acheter, problématique que j'évoquais avec elle. Elle m'a dit, lisez Lettre à Lucilius. Et je ne suis pas philosophe, je n'ai pas fait d'études de philosophie. Et dans la deuxième lettre, je me suis complètement reconnue. Et voilà, merci les bibliothérapeutes.
Merci beaucoup Sophie d'être intervenue dans Grand Bien Vous Fasse. Christina Pelédoile.
Lettre à Lucilius, c'est une merveille. Mmh. C'est une merveille.
Sur le témoignage de Sophie.
Sur le témoignage de Sophie, complètement d'accord. Et vous avez souligné une chose très importante, qui est en effet la relation thérapeutique qui permet de passer à un autre niveau dans la lecture, d'avoir un autre regard sur la lecture. Et ça, c'est irremplaçable comme dans toute thérapie.
Guillemette Odissino.
Oui, c'est joli. Vous parlez donc vraiment de prescription. Mais, et le fait que vous lisez ce livre-là, évidemment, en priorité par rapport à la grande pile qu'il y a sur votre table de nuit. Mais en fait, c'est joli aussi. Vous avez peut-être remarqué tous, quand quelqu'un, un ami ou son amoureux ou nous conseille un livre, c'est celui-là qu'on lit en priorité. Mais parce que d'une certaine manière aussi, on a un compte à rendre. Il nous a fait ce cadeau de nous conseiller un livre. On est bien obligé de lui dire ce qu'on en pense. Et c'est pas mal, en fait, ça. Ça fait le tri dans la pile aussi.
Marianne Chaillant, professeur de philosophie et écrivain.
Oui, je suis bien d'accord que les livres peuvent faire énormément de bien. Moi, il y a un livre dont le titre déjà me met en appétit. C'est l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine.
Ah, de Ruben Ogien, un philosophe cher à votre cœur.
Exactement.
C'est un livre qui est publié au Livre de Poche.
Tout à fait, donc il se trouve en poche. Le titre fait déjà du bien, comme l'odeur des croissants chauds. Et en fait, je dirais que tous les livres, je pense de l'influence des livres de Ruben Ogien sur le bonheur humain. Moi, personnellement, lire Ruben Ogien m'a... Je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas rencontré les livres de Ruben Ogien d'abord, puis Ruben Ogien lui-même. C'est une rencontre qui m'a bouleversée et qui m'a ensuite inspirée. Je n'aurais pas écrit les livres que j'ai écrits si je n'avais pas rencontré Ruben Ogien.
L'avant-dernier notamment.
Et notamment mon livre sur l'éthique qui s'appelle « Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ?» Ruben Ogien, c'est quelqu'un qui, sur les débats d'éthique auxquels on va être confronté dans les mois qui viennent, nous permet d'être extrêmement libre et de nous dire en fait vous avez le droit d'être qui vous êtes, ne cédez pas à la panique morale, ne cédez pas à ces angoisses que certains véhiculent, pour autant que vous ne nuisez pas autrui. Le minimalisme moral m'a fait énormément de bien.
Ouais, et son dernier livre, parce que Ruben Ogien a disparu il y a 2 ans maintenant. Il est mort d'un cancer, dont il a parlé dans son dernier livre. Il a parlé dans son dernier livre d'une manière tellement extraordinaire, tellement belle, tellement large de sa relation avec sa fin prochaine, que ce livre, je pense qu'il le dernier et tous les livres de Ruben, oui, mais Mille et une nuits, à mettre absolument dans toutes les mains. Ruben Ogien est un philosophe indispensable.
Redonner les titres, donc
De l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, et puis Mes Mille et une nuits, où Ruben Ogien, comme Scheherazade, essayait de repousser
de retenir le temps qu'il lui restait, et c'est magnifique.
Julien Bisson de l'hebdomadaire Le 1, vous êtes bien connu pour votre démarche féline et c'est pour cela que vous nous recommandez un livre de Sylvain Tesson et de Vincent Munier. Ça s'appelle Tibet minéral animal sur les traces de la panthère des neiges et c'est publié aux éditions Cobalan.
Oui, alors moi je suis comme beaucoup de nos éditeurs, j'aime beaucoup les bêtes et notamment les bêtes qu'on dit sauvages. Et il se trouve qu'en France, on a la chance d'avoir l'un des plus grands photographes animaliers au monde. Il s'appelle Vincent Munier. Il a une petite quarantaine d'années et lui, sa spécialité, c'est les terrains hostiles. C'est les bêtes qu'on a du mal à voir. C'est justement celles qui nous échappent et qui échappent encore au regard humain, à la prédation humaine. Il a fait des livres fantastiques dans la taïga sibérienne, en Terre Adélie, en Antarctique et en Arctique aussi. Voilà, dans ces régions glacées. Et là, il est parti chercher le Graal. Et le Graal, c'est la panthère des neiges. La panthère des neiges, c'est peut-être l'un des animaux les plus beaux du monde. Je vous encourage. Alors, c'est très difficile de la voir, évidemment. Hélas, peut-être, il y en a une à la ménagerie du Jardin des Plantes. Et c'est très triste de la voir se balader entre ces quatre murs. Lui, il va voir la panthère des neiges dans son habitat sauvage, sur les hauts plateaux du Tibet. Je crois que c'est la région du Kham, dans mon souvenir. Et il a passé, voilà, c'est l'affût du photographe qui essaie de capter l'image de cette majesté de la nature qu'est la panthère des neiges. Donc il y a des photos qui sont magnifiques et puis il y a des textes qui le sont tout autant parce qu'il a eu la très bonne idée dans cette expédition d'être accompagné de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, on connaît l'écrivain, on connaît son sens de la formule et Sylvain Tesson, c'est un voyageur, c'est quelqu'un qui a la bougeotte, c'est un nomade et là on lui demande de faire quelque chose qui est totalement antinomique pour lui, c'est-à-dire d'être immobile. C'est l'art de l'immobilité, l'art de la photographie animale, c'est rester immobile en pensant que peut-être vous ne verrez pas l'animal. Et il produit des textes dans ce livre qui sont vraiment magnifiques. Le livre lui-même, il y a une qualité de photo, une qualité de reproduction, une qualité du papier même dans ce livre qui est magnifique. On a envie, et je veux le dire, et puis vous avez le droit d'arracher toutes les pages du livre et les afficher sur vos murs. C'est véritablement du grand art.
Tibet minéral animal sur les traces de la panthère des neiges. C'est signé Sylvain Tesson et Vincent Munier et c'est publié aux éditions Cobalan. Guillemette Audicino, tout à l'heure on a mangé des frites. Alors on peut aller marcher pour brûler des calories. Alors vous nous conseillez, j'irai flâner sur vos tombes. Petit guide insolite des tombes remarquables en France. C'est signé Jean-Sébastien Petit-Demange. C'est publié chez Larousse.
Ah oui, non, mais après les frites, les tombes, vraiment, je sais pas pourquoi je passe là, mais bon. Oui, non, mais c'est excentrique comme guide pratique, mais c'est vraiment délicieux de se dire, vous savez, souvent, on a aussi envie juste de se balader dans le petit village d'à côté, ou par exemple à Levallois-Perret. Eh ben, on peut aller à Levallois-Perret. Et oui, on peut y aller parce qu'il y a la tombe de Gustave Eiffel. Et elle n'est pas dans le même sens que les autres tombes.
Pourquoi ?
Vous savez, normalement, dans les cimetières. D'ailleurs, dans ce livre, c'est très intéressant. On vous explique d'abord la naissance des cimetières. C'est marrant, d'ailleurs, le mot, la naissance des cimetières. Tiens. Mais donc, on vous explique comment les cimetières sont nés, comment on a décidé d'aligner les tombes, de planter des arbres d'une telle manière pour aérer, pour éviter les maladies, etc. Et donc, normalement, des tombes, c'est aligné. Eh ben, à Levallois-Perret, la tombe de Gustave, elle n'est pas alignée, bah parce qu'il regarde la tour Eiffel.
Ah, c'est beau, c'est joli. Ouais.
Et il n'y a que des trucs... Donc, en fait, ce sont à la fois des invitations au voyage. Enfin, pour le moment, vous pouvez encore...
Voyage éternel.
Oui. Voilà, vous allez voir des gens qui sont partis pour un voyage éternel. Mais il y a plein d'anecdotes. Chaque tombe, donc y a, ça va de Dalida à... je sais pas, Gérard Philippe. Forcément, Jim Morrison. Ah bah, le Père Lachaise, il y a plein d'anecdotes incroyables. Donc, ça raconte les gens un petit peu de leur vivant et souvent la particularité de leur tombe, où ils sont enterrés et tout. C'est extra! Vous n'avez même pas besoin d'y aller, à la limite, vous n'avez qu'à lire, c'est bourré d'anecdotes.
J'irai flâner sur vos tombes, petit guide insolite des tombes remarquables en France, c'est signé Jean-Sébastien Petit-Demange. Christine Ferniaud, après avoir flâné dans un cimetière, on peut se remettre de ses émotions en dégustant 20 plats qui donnent la goutte d'Edouard de Pomian, aux éditions Menu Fretin. Alors, Edouard de Pomian, c'était un médecin et chercheur à l'Institut Pasteur. Il est né en 1874 et mort en 1964. Je rappelle que la goutte, dont ne souffre pas heureusement Eric Libio à côté de moi, c'est une inflammation douloureuse des articulations. Oui, pas encore. Certains aliments provoquent des attaques de goutte. Pourquoi ce choix, Christine Ferniaud ?
Écoutez, chacun sa version du développement personnel. Moi, c'est du gras. Donc, ça m'a tout de suite tenté. En fait, c'était une maladie qu'on appelait le châtiment des gourmands. Moi, ça m'a plu tout de suite. Et je me suis dit, pourquoi ça a disparu ? Eh bien, à cause de vous, à cause de cette manie comme ça, de manger des légumes, de faire de la vapeur, alors que là, ils nous proposent la recette des paquets de tripes. Eh bien, le paquet de tripes, il vous faut juste 1,5 kg de gras double, des pieds de veau, du jarret de bœuf, du jarret de veau et du vin blanc. Donc, quand même, la vraie vie, quoi. Donc, il faut que la goutte revienne, parce que avec la goutte, c'est le bonheur. C'est
Marisol sort de ce corps.
C'est la fantaisie à tous les repas et c'est les kilos en trop. Et c'est ça, la vie. Quoi.
Christine nous invite quand à déjeuner ?
Guillemette, t'as décidé, ça vous plaît, là c'est...
Ah oui, je vais m'asseoir à côté. On va aller au resto ensemble après.
Je peux vous rappeler que
on va manger des frites et du gras.
Il y a donc 20 plats et le dernier, c'est le ragoudois à l'aigre doux. Rien que ça, moi j'ai faim.
Les véganes et végétariens qui nous écoutent doivent être ravis, Christine Ferniaud.
On s'excuse platement.
20 plats qui donnent la goutte d'Edouard de Pomian. C'est publié aux éditions Menu Fretin. Éric Libio, pourquoi lire Le bruit des mots de Daniel Percheron, c'est publié aux éditions du Passage.
Parce que moi, j'aime tous ces mots qui ne font jamais du mal, et jouer avec les mots, je trouve que c'est une façon de rentrer en littérature. Ce que j'aime avec les livres, c'est tous ces livres qui donnent à lire d'autres livres, comme un passage. Voilà,
on trouve dans des livres des idées, d'autres balades dans des... Et Daniel Parcheron s'amuse avec les expressions, avec les mots, il y en a évidemment beaucoup. Et lire ce livre, ben, donne envie de lire l'anthologie de l'Oulipo, de l'ouvrage de littérature potentielle, qui est la grande réconciliation quand même entre les mathématiciens et les littéraires. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On va chez Queneau, on va chez Pérec. Et puis, l'Oulipo, ça me donne envie d'aller voir l'anthologie du non-sens, d'aller relire Pierre Dac, Woody Allen, Alphonse Allais, les Monty Python. Et je voudrais terminer par une petite anecdote, un petit texte, enfin un petit paragraphe, tout petit paragraphe d'Edgar Poe dans l'idée du non-sens, parce que le non-sens, c'est une façon de ne jamais être dupe des choses qu'on vous dit. Je vous lis. Alors, question, quel est l'objet qui pend au mur et où l'on peut s'essuyer les mains? Une serviette? Non, à un rang. Mais un rang ne pend pas au mur. Ah bah si, on peut le pendre. Mais qui voudrait s'y essuyer les mains? Mais personne ne vous y oblige. Et voilà cette merveilleuse petite texte d'Edgar Poe qui donne envie ensuite d'aller jouer avec les mots.
Rappelez les titres des deux livres.
Alors il y a Le bruit des mots, Daniel Percheron, et évidemment L'anthologie d'innocence de Robert Benayoun.
Bon. Merci Guillemette Audition, on n'a pas le temps de parler de la Bible Larousse, des secrets des grands-mères. On garde pour la prochaine fois, pour la prochaine sélection. Oui. C'est un livre absolument formidable.
Je peux juste dire vinaigre de cidre, huile d'olive, savon de Marseille, argile verte, que des trucs cool. Et on fait des recettes soi-même, c'est génial.
Et pour ma part, je vous conseille un livre vif au style direct, publié chez Erol. Ça s'appelle L'art subtil de s'en foutre, de l'américain Mark Manson, qui mêle références scientifiques et anecdotes personnelles. Je vous cite juste un extrait de cet art subtil de s'en foutre. Toutes ces conneries du style « chacun de nous peut être extraordinaire et devenir génial » ne sont là que pour te passer la brosse à reluire. J'appelle ça se masturber l'ego. Le message a une valeur agréable, tu t'en régales, mais il est fait de calories vides qui t'engraissent l'ego et tu te retrouves ballonné de la cervelle. C'est l'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Merci à tous, merci au public du Salon du Livre. Merci à toute la bande de Grand Mavoufaz d'être venue ce matin. Merci à l'équipe de production ici au Salon du Livre. Merci à Alain Fauché qui fait un travail remarquable et qui nous a accueillis avec beaucoup de chaleur. Merci aux techniciens Benjamin Thuot, Gilles Manet et Florent Layani. Merci à l'impeccable programmation musicale de Muriel Pérez. Lundi, en partenariat avec Arte, on s'intéresse à la résistance aux antibiotiques, un fléau insidieux qui avance à bas bruit. Selon la directrice générale de la santé du Royaume-Uni, Sally Davis, dans un proche avenir, la résistance aux antibiotiques est comparable dans ses conséquences au terrorisme et au réchauffement climatique. À l'horizon 2050, la résistance aux antibiotiques pourrait tuer 10 millions de personnes chaque année partout dans le monde. N'hésitez pas à témoigner lundi sur la résistance aux antibiotiques au 01 45 24 7000. Merci à tous d'être venus.